Well, Jack, I'm certainly beginning to understand what you mean by cats now.
You understand what I mean? They really swing out, don't they?
It's real gone.
Listen, wait till you hear this next one.
What's it going
to
be?
Well, I'm going to ask them if they will be kind enough to do a little thing called the Muskrat Ramble.
Yeah.
It's a little thing.
Sounds real fine.
Enfant pauvre de la Nouvelle-Orléans, petit-fils d'esclave, devenu musicien de légende. On ne saurait exagérer l'influence qu'a eu Louis Armstrong sur le développement du jazz et son imaginaire populaire. Le son puissant et clair de son cornet, sa voix si particulière qui unit le ciel et l'enfer selon Philippe Soupeau, continue aujourd'hui d'ensorceler ses écouteurs à travers le monde. Ceux d'entre eux qui voudraient explorer sa vaste collection personnelle seront sûrement ravis d'apprendre qu'ils pourront désormais s'éviter un vol pour New York grâce à un accord entre Dot Time Records et le Louis Armstrong Educational Foundation. Je m'appelle Luxi Bright et vous écoutez le programme Jazz Story sur Art District Radio. Le premier volume d'inédit d'Armstrong produit par Dot Time s'appelle The Standard Oil Sessions. Et par coïncidence, il s'agit d'un des tout premiers enregistrements qu'Armstrong ajouta à sa collection. Nous sommes à San Francisco, en janvier 1950, et Armstrong et ses All-Stars sont en ville pour jouer au New Orleans Swing Club. On lui propose de faire une apparition sur le Standard School Broadcast. Ce programme radio éducatif, sponsorisé par Standard Oil, avait été créé en 1928 avec pour mission de promouvoir une appréciation musicale chez les étudiants dans l'ouest des États-Unis. La semaine en question, c'est la musique de la Nouvelle-Orléans qui est mise à l'honneur. Et qui mieux pour en être le digne représentant que le désormais très célèbre Louis Armstrong. L'émission hebdomadaire figurait Clancy Hayes, un guitariste, banjoiste et chanteur de la scène jazz du West Coast. Il y joue le rôle de Jack of All Tunes, l'expert musical en résidence. À ses côtés, son acolyte, Matt the Mapmaker, Matt le cartographe. Ce dernier est interprété par Jack Cahill, qui construit une carte musicale de l'Amérique. Sur le tout premier morceau de l'album, on les entend justement, les deux. Ils jouent le jeu et font semblant d'être en Nouvelle-Orléans. Jack invite Matt à le rejoindre dans un lieu où traînent des musiciens d'exception, des cats comme il les appelle, et qui sert le meilleur riz aux haricots rouges, le fameux red beans and rice, un des plats emblématiques de la cuisine créole de la Louisiane. Armstrong a dû apprécier la référence. Il était connu pour son goût pour la cuisine de sa région natale, et signer toutes ses lettres avec « Red Beans and Ricely Yours ». Jack introduit alors Matt à Satchmo et son groupe, et les voilà partis pour une interprétation du classique « Do you know what it means to miss New Orleans ?». Pour des raisons qui demeurent inconnues, seuls Armstrong, Jack Teagarden et Earl Fotherhines ont été choisis pour cet enregistrement. Pourtant, les instruments sont les mêmes que ceux des All-Stars, donc nous ne pouvons que spéculer pourquoi Barney Bigard, Arvel Shaw et Cozy Cole n'ont pas été utilisés à la clarinette, la contrebasse et la batterie respectivement. Une hypothèse, il s'agit d'argent. Cela aurait pu coûter beaucoup plus cher d'utiliser l'ensemble complet des All-Stars, il est possible que Standard Oil ne pouvait que se permettre de payer les trois icônes du groupe. Résultat, l'identité des trois autres musiciens demeure à ce jour un mystère. Sur les enregistrements originaux, on entend mentionner le nom de Lyle Johnson à la clarinette. Mais cet artiste n'apparaît nulle part ailleurs, que ce soit sur des enregistrements ou dans les archives. Peut-être s'agit-il d'un simple musicien du studio NBC, projeté par nécessité dans ses collectifs. Peut-être même qu'il ne s'agit pas de son vrai nom. Une photo a survécu de cette période où l'on voit Armstrong, Teagarden et le chef de groupe Sammy Kay, une clarinette à la main, autour d'un microphone radio. Kay était-il par hasard incognito? Quant au batteur et au contrebassiste, nous ne connaissons d'eux que leur sens du swing qui transparaît sur cet enregistrement. Mais au final, les vedettes du show ce sont bien évidemment les trois All-Stars. Armstrong, Teagarden, Hines, ce trio illustre qui est en grande forme tout au long du programme. Armstrong et Teagarden étaient comme des frères. Ils enregistrent ensemble pour la première fois en 1929 le morceau Knocking a Jug, qui est par ailleurs un des premiers exemples d'un enregistrement réalisé avec des musiciens noirs et blancs. Ils se réuniront à plusieurs occasions, mais c'est lors du concert au Town Hall de New York en 1947 celui-là même qui a donné naissance aux All Stars, que leur partenariat musical se solidifie réellement. Hines était aussi un vieil ami d'Armstrong. Leurs enregistrements de 1928 sont légendaires. Lui aussi avait dû dissoudre son big band, pourtant très populaire à Chicago dans les années 1930, en raison de contraintes financières. Joe Glazer, le manager d'Armstrong, le convainc de rejoindre les All Stars en 1948. De nombreux bootlegs ont survécu de la période entre 1948 et 1951, date à laquelle Hines et Teagarden quittent le groupe, en plus d'un album live officiel. Mais pourtant, les All Stars ne se produiront en studio que deux fois pendant cette même période. Et c'est en partie cela qui donne à The Standard Oil Sessions toute sa signification. Car, même s'il y a un public présent pour l'enregistrement, celui-ci a tout d'un album studio. Les microphones de NBC capturant parfaitement toute la finesse et la subtilité du jeu des musiciens. Pour en savoir plus, rejoignez-moi au prochain épisode.